Dieu manifeste ses dons. On a eu le droit ce matin à une prophétie en langue avec une interprétation et nous voulons le remercier pour ces manifestations et vraiment que l'Église puisse croître, grandir. Dieu veut parler à son Église. Nous voulons t'entendre, ô Dieu, Dieu des miracles. Amen. Voilà, j'ai voulu prendre ce chant qui nous dit « Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ?» Amen. Et déjà, à travers ça, je crois qu'il y a une grande question. Hein ? Si Dieu est avec nous, alors déjà, il y a des personnes qui vont peut-être se dire « Mais comment je peux savoir que si Dieu est avec moi ?» Mardi soir, on a prié autour d'un texte biblique qui était « L'Éternel est mon berger, Jésus-Christ est le berger, et on reconnaît la voix du berger. Les brebis reconnaissent la voix du berger. » Et certains se disaient « Mais est-ce que des fois je ne me trompe pas ?» Donc, si Dieu est avec nous, déjà il y a toute une question derrière ça. Il y a des doutes des fois. On se demande si Dieu est vraiment avec nous, est-ce qu'on sait l'entendre ? Et qui sera contre nous ? Il ne faut pas croire qu'il n'y aura plus de tentative d'intimidation de l'adversaire. Hein, ça veut dire que si Dieu est avec nous, même s'il y a des tentations, je sais que Dieu est avec moi, et il est plus fort que contre tout ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Hein, ce matin, il y avait une sœur, durant les premiers chants, elle a prié spontanément et elle disait « Seigneur, avec les larmes, merci pour les épreuves. » Notre chemin sur cette terre, en tant que chrétien, n'est pas un chemin rose ou sans difficulté, mais si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? Et souvent, ce verset « qui sera contre nous » est utilisé souvent dans la parole vis-à-vis des hommes. « Si Dieu est avec toi, que te feraient les hommes ?» On a peur des hommes, on a peur des gens qui nous entourent, on a peur des hommes. Souvent, c'est devant les hommes. « Que me feraient les hommes ?»« Si Dieu est avec nous, que me feraient les hommes ?» Peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre cette parole ce matin. Tu es peut-être dans l'intimidation et tu as peur de quelqu'un, un homme, une femme, quelque chose de physique. Mais Dieu veut te dire, si Dieu est avec toi, tu n'as rien à craindre. Amen. Alors je vous introduis tout de suite dans une lecture. Donc c'est dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, au chapitre 15. On va prendre les deux derniers versets du chapitre 15. Et les quatre premiers versets du chapitre 16. Donc, chapitre 15 de l'évangile de Jean, à partir du verset 26. « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi. » Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir pensera offrir un culte à Dieu. Et ils feront cela parce qu'ils ne m'ont pas connu, ni le Père ni moi. Je vous ai parlé ainsi pour que l'heure venue, Vous vous souvenez que je vous l'ai dit. Je ne vous l'ai pas dit dès le commencement parce que j'étais avec vous. Ici, on a un discours de Jésus. C'est un long discours pour préparer ses disciples aux choses qui vont venir. Et je crois que la parole, on croit que la parole est actuelle. Ce n'est pas une parole qui a été écrite à un temps donné pour uniquement ces gens-là. Mais je crois aussi que la parole est là pour nous révéler la pensée de Dieu. Et ici, ces versets parlent d'un basculement du ministère de Jésus. En fin de compte, Jésus explique à ses disciples qu'ils ne vont pas vivre un compagnonnage avec lui éternellement. Hein, vous savez un petit peu cette situation facile. Vous êtes auprès du maître et puis quelqu'un vous pose une question un peu embarrassante sur Jésus-Christ ou autre chose. Et puis vous vous tournez vers le maître qui est juste à côté en disant « Est-ce que tu ne peux pas répondre à ma place, s'il te plaît ?» Et Jésus est en train de dire aux disciples « Écoutez, je ne vais pas être auprès de vous éternellement. » Donc cette situation un peu facile, d'avoir un référent auprès de nous. Et en fin de compte, des fois, le fait d'avoir un référent, d'avoir quelqu'un qui cette proximité avec cette personne-là, quelque part, vous empêche d'advenir à ce que vous devez être. En fin de compte, le fait d'avoir ce référent, je ne parle pas de Jésus, je parle dans la vie de tous les jours, quand on est sous la proximité de quelqu'un qui veut structurer nos pensées, nos émotions, notre façon d'être, eh bien, des fois, ça freine à ton épanouissement et ça freine et ça empêche à devenir ce que tu dois être, c'est-à-dire un témoin plein et entier. Et donc Jésus, ici, dit tout simplement aux disciples, vous m'avez eu pendant des années, mais il va falloir commencer à comprendre que je ne vais pas toujours rester auprès de vous ainsi. Il va falloir comprendre que je suis présent auprès de vous, mais qu'il va y avoir un changement. Il va y avoir un autre mode de présence de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ leur dit aussi aux disciples qu'il n'est pas venu ici pour s'installer et pour devenir, au bout de 10-15 ans, roi sur Israël. Il n'est pas venu pour cela, il est venu pour apporter la parole de Dieu, mais il est venu aussi pour envoyer ses disciples. Donc je ne sais pas si vous pouvez déjà imaginer les disciples, donc ces personnes qui suivaient Jésus, ils s'étaient déjà mis dans pas mal de difficultés. C'est des gens, ils avaient tout lâché pour suivre le Christ. Ils se sont mis en difficulté avec leur famille, ils ont lâché leur métier, ils étaient pêcheurs, ils sont appelés à être pêcheurs d'hommes, certains sont travaillé le bois, ils sont amenés à être constructeurs de l'Église, mais non pas l'Église physique, hein, mais l'Église spirituelle. Donc les disciples se sont mis déjà dans pas mal de difficultés vis-à-vis de leur relation, dans leur cercle de relations, ils se sont mis déjà en difficulté. Et Jésus vient en disant, écoutez, il va y avoir encore un changement. Bon, bah, c'était bien gentil, on a déjà tout perdu, il va falloir encore tout reperdre. Je ne sais pas si vous arrivez à vous mettre dans cette situation. Pour certains, vous comprenez que suivre Christ, c'est des difficultés, des oppositions. Hein, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Mais il y a des difficultés. La famille ne le comprend pas forcément. Votre entourage ne le comprend pas non plus. Il y a déjà des difficultés. Et Jésus nous dit qu'il va falloir encore donner davantage. Encore donner davantage. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est difficile à admettre à travers ces paroles. Donc il va falloir, comme je vous l'ai dit, fonctionner différemment. Les disciples doivent fonctionner différemment, c'est-à-dire que Jésus va partir, il va falloir un nouveau mode de présence du Christ. Et donc Jésus commence à les amener sur cette pensée qu'il va partir. Et qu'il est avantageux pour Jésus qu'il s'en aille. Pourquoi ? Parce que l'Esprit de Dieu va intervenir. Il est avantageux que Jésus-Christ s'en aille parce que l'Esprit va pouvoir venir sur les uns et sur les autres. Et il y a aussi une annonce à travers ce grand changement. Jésus-Christ dit qu'il va devoir partir, qu'il ne sera pas toujours auprès d'eux éternellement. Et en fin de compte, le Christ les amène aussi à une réalité, et ça j'aimerais que vous l'écoutiez, c'est que Dieu ne nous demande pas d'être des élèves année après année. Souvent, on s'est bloqué au niveau de disciples. J'ai peut-être en choqué certains, mais souvent, dans les églises, on parle d'école de disciples, on parle de ceci, cela. La parole parle de disciples, mais Dieu nous demande qu'on ne soit pas des éternels étudiants. Et il y a un moment, il va falloir aller travailler. Il va falloir être de ceux, on va devoir aller bosser. Bosser pour le royaume de Dieu. Et vous savez, quand on voit la parole dans Matthieu qui dit que d'envoyer des ouvriers, hein, il est marqué, il y a peu d'ouvriers, envoyer des ouvriers. Ce n'est pas marqué qu'il faut lever des ouvriers. C'est marqué qu'il faut les envoyer. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'ils sont présents, les ouvriers. Mais quelque part, il y a une retenue. Ils ne sont pas envoyés. Et Jésus leur dit, écoutez, vous avez été 3 ans avec moi, vous avez peut-être votre bac plus 3 en disciple, mais maintenant, il va falloir aussi aller travailler. Et travailler pour le royaume de Dieu, ce n'est pas uniquement dire Jésus a fait de belles choses. Parce que ça, même les incroyants le disent. Il y a eu une époque, une exposition à Paris. Ils ont parlé de Jésus, cette exposition. Et ils disaient de très belles choses, hein, très belles choses sur Jésus. Mais ils n'étaient pas croyants. Et donc, il va falloir devenir actif. Et comment devenir actif sans cette présence de Dieu, sans le Saint-Esprit, sans la plénitude du Saint-Esprit? C'est difficile, hein, vu que le Saint-Esprit est venu pour que c'est la présence de Christ. On ne peut pas être des actifs sans cette présence. Et donc, c'est révolutionnaire pour les disciples. Je ne sais pas si vous arrivez à vous mettre à leur place. Ils n'ont pas tout compris. Les disciples, ils étaient auprès de Jésus. Ils savaient qu'il y avait quelque chose de particulier en cet homme. Il y avait quelque chose de particulier, c'est-à-dire qu'il avait une autorité particulière. C'était un homme qui dérangeait beaucoup. Il dérangeait beaucoup. C'est un homme qui allait dans les synagogues, il chassait les démons. Et certains vont dire, c'est pas l'endroit très correct pour chasser les démons. C'était quelqu'un qui dérangeait Jésus. Il avait cette puissance, cette autorité. Il guérissait les malades. Et les apôtres ont pu exercer cette expérience. À un moment, ils sont partis, ils ont pu guérir des malades, chasser des démons, mais ils n'ont jamais pensé qu'un jour, ils auront cette présence en permanence auprès d'eux. Aujourd'hui, Dieu nous donne cette présence. Amen. Je sais que vous avez ce cœur, vous avez cette soif. Ce matin, on le ressent, il y a une soif à passer à autre chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous avez soif, non pas pour faire du n'importe quoi, mais il y a Dieu, il y a un rendez-vous de Dieu, il y a quelque chose que Dieu veut mettre dans les cœurs. Et on le sent bien, il y a une soif qui est là. Et des fois, on est limité, on est freiné, on l'a entendu dans les prières. Alors que Dieu puisse faire son œuvre. Je vous annonce des choses de la parole avec mes faiblesses, mais je sais une chose, Dieu veut agir. Amen. Dieu veut agir au milieu des uns et des autres. Dieu veut, il veut qu'on puisse changer le monde. Alors, c'est un grand mot, changer le monde. Mais pas changer le monde comme les philosophes ou les gens qui sont venus sur cette terre, mais changer le monde pour le remettre dans la volonté de Dieu. Ne vous laissez pas freiner avec la loi de 1905. Arrêtez. Vous avez le droit d'exprimer votre foi. La seule chose qu'on vous demande, c'est de ne pas les saouler, les gens. C'est tout. Mais exprimez. On a le droit d'exprimer. Ça, c'est un fardeau sur la France. Quand vous allez en Afrique, vous croisez quelqu'un, il vous parle de Dieu facilement. Et arrivez ici, mes frères africains et sœurs africaines, vous devez peiner des fois parce qu'on n'entend même pas le mot de Dieu dans nos régions. Et souvent, c'est cette loi 1905 à croire qu'on a peur derrière tout ça. Mais vous avez le droit d'exprimer votre foi. Donc ça, il faut vraiment que ça soit cassé, cette loi 1905. Et comprendre qu'on a le droit d'exprimer notre foi vis-à-vis de Dieu. Donc Dieu nous appelle à remettre sa création dans le calage par rapport à ce qu'il avait promis. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est seulement une petite parenthèse. Vous savez, on retrouve dans les Actes des Apôtres exactement la même situation qu'au début de la création. Les 5 premiers chapitres nous parlent de quoi ? C'est l'effusion du Saint-Esprit sur le chaos qu'il y avait à ce temps-là. Le chaos, c'était la religion juive qui était là et qui mettait les gens dans des rituels qui n'avaient plus rien à voir avec Dieu. Jésus-Christ a été crucifié. Ensuite, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a structuré l'Église. Et il l'a tellement bien structuré qu'à un moment, même les hommes l'ont idéalisé. Attention, on n'est pas là pour idéaliser des structures, des églises. Et l'homme l'a idéalisé. Et qu'est-ce qui est arrivé quelques chapitres après ? Ananias et Saphira. Ils sont arrivés. Et là, ça, tout a explosé. Quand je dis idéaliser, c'était tout ce qu'il y avait autour, c'est-à-dire, et souvent c'est des versets qu'on prend pour dire, regardez, ils vivaient bien, ils partageaient leurs biens, ils donnaient leurs biens aux uns et aux autres, mais tellement bien qu'à un moment ils se sont même mis en difficulté. Et dans cet idéal, c'était un petit peu le jardin d'Éden de l'époque, l'Éden de l'époque, eh bien, il y a eu Ananias et Saphira. Et là, il y a eu un tournant. Et l'Église a dû se disperser tout autour de Jérusalem. Quitter Jérusalem, cet idéal, cet Éden, pour que l'Église puisse prospérer. En fin de compte, Dieu, qu'est-ce qu'il fait depuis des années ? C'est qu'il nous sort du chaos. Il nous sort du chaos. À chaque fois, il nous sort du chaos. Est-ce que vous aspirez à recevoir la promesse de Dieu, à recevoir l'Esprit, le Saint-Esprit? Est-ce que vous aspirez à ça? Maintenant, je vais vous donner la promesse qu'il y a derrière ça. La promesse qui est un peu dure, mais qui est réelle. Elle est simple. Il nous dit simplement, vous allez vous faire massacrer. Pas par les officiellement incroyants, mais par les officiellement croyants. J'ai lu dans un petit une interprétation qui disait, même si l'on peut s'entendre à la persécution de la part du monde par les incrédules, combien plus terrible encore est celle qui provient des gens religieux. Et nous voyons que ce sont les plus responsables qui sont les premiers dans cette persécution. Vous allez vous faire sortir des synagogues. Vous allez être mis devant les tribunaux. Vous allez être la risée du monde. Vous allez être crucifié, non pas comme Christ a été crucifié, mais crucifié avec des mots, crucifié avec des frustrations diverses et variées. C'est une réalité, hein. C'est une réalité. J'ai un frère, je ne nommerai pas son nom, mais quelqu'un qui vivait dans une dénomination qui n'avait pas forcément une tendance à croire au baptême dans le Saint-Esprit. Et quand cette personne-là a reçu le parler en langue et le baptême dans le Saint-Esprit, eh bien, on l'a mis dehors. Je ne suis pas là pour... attention, je ne voudrais pas qu'on déforme mes propos, mais à travers ce frère, il y a quand même une souffrance, il y a quelque chose, on se pose des questions, on ne comprend pas tout. Et souvent, les hommes religieux... La chose qui freine le plus à l'avancement du royaume, c'est quoi aujourd'hui? C'est les synagogues modernes qui sont nos églises. On freine. Et c'est pour ça que je vous dis, je sens cette soif. Hein, vraiment que Dieu puisse encore inspirer votre soif, puisse encore vous donner d'aller de l'avant avec lui. Et pourquoi ce message dérange? Parce qu'on n'apporte pas un langage pacifique. On n'est pas là pour apporter un langage pacifique, même si on veut qu'on soit en bon accord avec les uns et les autres, mais notre langage n'est pas un beau langage pacifique. Parce que vous savez, des gens qui achètent des petits cristaux pour être bien dans leur maison, ceux qui sont adonnés au New Age, ou des choses comme ça, c'est des gens qui ont un dialogue pacifique. Mais on n'a pas besoin de Jésus pour donner un beau message pacifique. En fin de compte, la paix que Dieu veut donner, et ça c'est difficile d'entendre, hein, ça apporte des oppositions radicales. Hein. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un message idéaliste, idéologique, mais c'est ni humanisme, mais c'est un message qui vient... Et ça, c'est le mystère de Dieu. C'est un message qui vient dans les profondeurs des racines de l'être humain. Un message de paix qui tranche entre l'esprit et la chair et qui vient changer. Pourquoi? Pour que ça porte du fruit. Ça porte du fruit. Et quand on lit ce verset, on a tout de suite en tête les actualités. Ce verset qui dit « Viendra le moment où ceux qui croient apporter un culte à Dieu » vous mettront à mort. Hein, je ne sais pas pour vous, mais au niveau des actualités, ça peut résonner. Mais bizarrement, ce verset-là n'est pas uniquement pour les Syriens qui vivent leur foi avec difficulté, ni les Nigériens, ni les autres peuples qui ont du mal à vivre pleinement leur foi. elle est pour une génération qui ont décidé de vivre véritablement les œuvres de Christ. Quand le Saint-Esprit est déversé, c'est pas tout va bien dans le meilleur des mondes. On a des beaux locaux. On a plus besoin d'investir dans les pierres humaines que dans des pierres mortes. Ce n'est pas la sono marche bien. Merci Corentin. Donc quand l'Esprit de Dieu est déversé, eh bien c'est l'opposition. C'est la difficulté. Ça, il faut qu'on l'entende. L'Évangile, c'est pas de l'eau de rose. C'est aussi comprendre qu'il y a des difficultés. Il y a des difficultés. Faut pas croire que parce qu'on est gentil, on est bon, les gens vont venir avec nous et puis ils vont oh, Jésus. Non, il y a des difficultés. Il y a des moments où il va falloir aussi qu'on ne mâche pas nos mots. Il va falloir aussi ne pas appeler mal bien. Donc il y a toutes ces choses. Donc quand le Saint-Esprit, et là il y a une soif que le Saint-Esprit déverse, il y a de l'opposition, de la difficulté. C'est des remises en question terribles. Souvent on le voit avec les réveils. Quand il y a des réveils sur certaines régions, il y a des remises en question terribles. Et donc Jésus a besoin de préparer ses disciples à tout cela. Il a besoin de les préparer. Pourquoi ? Parce que déjà, la première étape, ils ont du mal à le concevoir. Déjà, Jésus-Christ crucifié, ils ne peuvent pas le concevoir. Pourtant, il a dit, je serai crucifié, je serai mis à mort et je vais ressusciter. Et c'est impossible pour eux. À percevoir, c'est impossible. Donc chaque génération, depuis 2000 ans, qui ont soif d'avancer avec Dieu, de vouloir se mettre sous sa coupe, et que Dieu nous aide, qu'on puisse sortir de ce qui nous retient. On passe un bon moment, culte, puis après on va descendre la montagne, on va retourner à ce qu'on connaît, mais que Dieu nous donne vraiment de pouvoir changer tout ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que Dieu nous donne, parce qu'il y a une soif, il y a des gens qui ont besoin d'entendre l'Évangile, il y a des combats qui sont là. Donc comme je vous disais, la paix que Jésus demande est exigeante. Et il y a des oppositions terribles et insupportables pour l'ordre moral des églises, aussi bien du catholicisme que protestant, évangélique. La paix que Jésus amène est intolérable. Et pourquoi ? Pourquoi elle est intolérable ? Parce qu'elle nous met dans la même position que les disciples. C'est-à-dire que tu as tout reçu avec Christ, et il va falloir que tu redonnes tout pour Christ. Qu'on ne s'installe pas, s'il vous plaît, qu'on puisse être en marche. Et ça, c'est insupportable. Bien sûr, tout perdre, ça ne veut pas dire remettre en cause notre salut. Tu as reçu le salut de Dieu, c'est pas en remettre aussi en cause le Christ et le Fils de Dieu. Donc ce n'est pas ces choses-là qu'il faut remettre en cause. Et puis tout ce que tu as reçu, tu ne l'as pas perdu. Non, c'est d'avancer vers quelque chose, une dimension nouvelle. Et répondre quelque part à ton appel. Répondre à ce que Dieu a mis sur ton cœur, sur ton appel. Il est marqué que Jésus, il est avantageux que je m'en aille. Et en plus, vous allez voir de plus grandes choses que quand j'étais sur terre. Et ces grandes choses, c'est au niveau de la quantité. Et il y a des appels de Dieu sur les cœurs. Que ces appels puissent être manifestés. Que ce que tu as reçu, les autres ne l'ont pas reçu. C'est marqué à un moment, regardez les uns et les autres comme plus forts que vous. Ou je ne sais plus comment c'est mis. C'est ça, regardez les autres comme supérieurs à vous-même. Oui. Et en fin de compte, ce n'est pas une question de supériorité. Ça n'a rien à voir en disant « Oh, il est plus grand que moi. Oh, » Non, pas du tout. C'est qu'en fin de compte, ce que les uns et les autres ont reçu, eh bien, moi, je ne l'ai pas reçu. C'est ça. C'est que chacun est différent. Ils ont reçu quelque chose de différent. Voilà, je voulais être court ce matin. J'aimerais quand même donner l'occasion. Est-ce que les musiciens peuvent revenir? Est-ce que vous pouvez reprendre Adorons d'une... J'aimerais donner ce matin l'occasion à certains. Vous savez, Dieu nous demande de nous réunir ici, mais non pas pour suivre un nouveau Moïse. On n'est pas là pour suivre un nouveau Moïse, c'est-à-dire comme le peuple d'Israël qui suivait un patriarche. Mais Dieu nous demande de nous réunir là parce que le message qui doit être apporté à l'extérieur. On ne peut pas seulement le garder pour nous et le célébrer, venir tous les dimanches en célébrant sa bonté, sa gloire. On lui rend un culte, mais le message qu'il nous apporte doit être amené sur l'extérieur. Il était marqué mardi soir, Jésus et le berger, et les brebis suivent et ils sortent. Il faut qu'on annonce ce message. Sois assuré de la grâce de Dieu à travers ça. Sois assuré de ce que tu peux donner aux autres. Amen. Voilà, on va pouvoir prendre la musique et j'aimerais tout simplement prendre quelques minutes pour faire un appel. On croit à l'Évangile, on croit au message de Dieu et on ne veut pas non plus laisser repartir les uns et les autres sans qu'il y ait une touche de sa présence. Je crois qu'il y a des choses qui ont touché ton cœur ce matin et tu as besoin d'aller de l'avant et certains ont peut-être aussi reçu un appel. Et c'est un petit peu embrouillé. Cette personne ne sait peut-être pas trop comment l'exprimer, comment le donner, comment l'apporter aux autres. Peut-être que quelqu'un a été souvent sous la coupe d'une personne et elle n'a pas pu pour l'instant exprimer vraiment ce qu'elle a pu être. Cette personne a besoin aussi peut-être de couper des liens avec des choses qui la retiennent. On l'a entendu ce matin, les bandelettes, ces choses qui sont là pour nous retenir, alors que ce que tu dois faire toi, les autres ne le feront pas. J'aimerais aussi prier pour cela et peut-être aussi pour certains donner l'occasion si quelqu'un est malade dans son corps. Nous croyons à la guérison. Amen, on croit à la guérison. Si quelqu'un a une douleur ou quoi que ce soit, elle pourra aussi venir devant, les frères pourront prier pour elle. Mais j'aimerais qu'on puisse laisser pleinement exprimer ce matin la gloire de Dieu, d'une façon simple, mais réelle. Notre Dieu est vivant. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia. Alléluia. Alors ceux qui se sentent, on peut rester dans le recueillement, et ceux qui se sentent interpellés par, vous pouvez vous avancer devant, et on pourra prier pour vous. Pendant que cette décision se fait dans les cœurs, je lis tout simplement ces quelques versets dans Actes 19. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Il rentra, quelques disciples leur dit « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. » Il dit, « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent, « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance. » Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus-Christ. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Amen. Amen. Ce matin, Dieu est intervenu par la prophétie. Dieu est venu pour parler à son peuple et je crois que Dieu veut aussi intervenir pour être rempli de cet esprit, l'esprit de Dieu. C'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit qui parle au nom de Jésus-Christ. Il ne parle pas en un autre nom, mais nous avons besoin de cette présence. Il y a peut-être quelque chose qui est en toi et tu as besoin d'avoir cet Esprit de Dieu en toi pour pouvoir avancer, pour avoir cette présence, pour pouvoir témoigner, pour pouvoir annoncer ce que Dieu a fait dans les vies.